qui est plein de tendresse, plein d'émotion. Et je dirais qu'il faut vraiment être maniaco-dépressif pour faire ce type de film, parce que je ne suis pas certain que d'autres personnes n'auraient pu le faire, parce qu'il y a une telle sensibilité dans ce film qu'elle est vraiment propre à Tim Burton. Alors, je ne dis pas que les non-maniaco-dépressifs ne peuvent pas accéder à cela, mais on retrouve tout à fait l'imaginaire du maniaco-dépressif. C'est un film qui n'a strictement rien à voir avec la maladie maniaco-dépressive, mais qui est très beau, qui est un film merveilleux, qui est un film plein de poésie, plein de tendresse. Et je vous conseille vivement de voir ce film, parce que c'est deux heures de bonheur, même si à la fin du film, on sort le mouchoir et on pleure. Et il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient dans la salle, moi y compris. Mais le film, je vous le conseille. Voilà. Je laisse la parole à Vanessa.
Merci. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa Lejeune et je suis étudiante en psychologie à l'Université de Paris 5. Et donc, je prépare un mémoire sur les troubles bipolaires. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide afin de répondre à des questionnaires, afin de valider mon mémoire. Et donc, c'est des questionnaires qui s'adressent uniquement aux personnes maniaco-dépressives. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont de la famille de personnes maniaco-dépressives, mais c'est vraiment uniquement pour les personnes maniaco-dépressives. Et donc, je voulais aussi vous signaler que ces questionnaires sont anonymes, qu'il n'y a pas votre nom, etc., et que les données que je recueille sont confidentielles. Et donc voilà, j'aimerais bien que vous consacriez une vingtaine de minutes pour remplir ces questionnaires afin de m'aider, parce que j'ai vraiment besoin de votre aide. Et voilà, donc si vous pouviez les rendre la semaine prochaine ou dans 15 jours, ce serait sympa. Merci de votre participation.
Merci.
On va le faire.
Je vais les distribuer.
Ça va ? Tu vas avant ?
Vas-y, vas-y.
Tu vas avant, tu viens après.
Vas-y, vas-y.
Alors, c'est bon là, vous m'entendez ? Oui ? Donc, j'insiste pour que vous écoutiez bien.
Bien, bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, je suis Madame Cazelas, donc je suis assistante sociale à l'UNAFAM, donc où je travaille depuis une dizaine d'années, et donc où j'ai un rôle à la fois d'assistante sociale, donc de réponse aux familles, et de conseillère technique au niveau de l'association. Et par ailleurs, je suis présidente d'une association qui s'appelle Artam Gallery, parce que Dr Gay a parlé de la créativité, et cette association a pour but de soutenir des plasticiens fragilisés par un trouble psychique. Voilà, donc si jamais il y a dans la salle des personnes que ça intéresse, on peut aussi en parler, mais peut-être pas tout de suite là. Voilà, donc, alors la prise en charge sociale, bon, moi je pense pouvoir en parler par rapport à trois aspects, à la fois les soins, le travail et les ressources. J'essaierai à chaque fois de vous donner les divers interlocuteurs vers lesquels vous pouvez aller. Et peut-être également les structures qui correspondent à chaque fois qu'on parlera ou du travail ou des soins, etc. Voilà, donc au niveau des soins, donc je vais... Oui, ça marche, ton projecteur. Alors, au niveau des soins, donc évidemment, la première des choses, donc, c'est la couverture maladie. Donc, au niveau de la couverture maladie... Je
vais voir dans quel sens ça marche. Dans
voilà. La couverture maladie, donc c'est la prise en charge des soins, le remboursement, donc par la sécurité sociale, des frais médicaux, des consultations, etc. Alors, la couverture maladie, ça se raccroche toujours à un statut. Hein. On est assuré social parce qu'on travaille, ou on est en maladie, ou on est au chômage, ou on est au RMI, ou on a l'allocation aux adultes handicapés. Enfin, ça se raccroche toujours effectivement à un statut. Alors maintenant, depuis janvier 2000, donc il y a eu la naissance de la couverture maladie universelle, donc on a une couverture totale. Donc simplement, pour dire qu'au niveau de la couverture maladie, on a toujours une solution. Hein, parce qu'il peut arriver que, bon, on a un travail, on abandonne son poste, on part. Bon, si on n'est pas couvert par, si on ne peut pas raccrocher à quelque chose, ou du travail, ou une allocation, etc., à ce moment-là, on sera couvert là, par la CMU de base, qui est donc la couverture maladie, qui donne les mêmes remboursements, parce que qu'on soit assuré d'une façon ou d'une autre, on a toujours les mêmes remboursements, la même base de remboursement. Donc simplement, au niveau de la sécurité sociale, on ne se fait pas de soucis, on a toujours une solution, et peu importe laquelle à la limite, parce que les remboursements, ce sont les mêmes, et donc il faut s'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'assistante sociale. Il y a une assistante sociale dans les caisses primaires d'assurance maladie qui sont compétentes pour tout ce qui est les problèmes de santé. Alors, donc, l'ouverture de droit à la sécurité sociale, donc, ça donne, ça rembourse ce qu'on appelle par rapport à un tarif de responsabilité. Alors, c'est vrai que tout n'est pas pris en charge. Voilà, donc au niveau des remboursements des soins, donc vous avez une partie donc, qui est remboursée par la sécurité sociale. On peut être remboursé à 100%. Donc il y a une trentaine de maladies qui donnent droit au remboursement à 100%, qui sont les maladies de longue durée. Mais c'est 100% du tarif de responsabilité. C'est-à-dire, si on va voir un psychiatre à 500 francs la séance, c'est sûr qu'on ne sera pas remboursé 100% de 500 francs. On sera remboursé 100% du montant du remboursement de la consultation qui est de 100, je ne sais pas qui c'est qui veut m'aider, de 1 euro. Combien ? 37 euros. Donc on sera remboursé 100% de 37 euros. Alors, donc, comme tout n'est pas pris en charge, tout n'est pas remboursé, c'est vrai qu'il y a une partie donc pour lequel on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour... parce que même si on est pris en charge à 100%, bon, si on est, quand on est hospitalisé, le forfait journalier n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, même si on est à 100%, par exemple. Hein. Donc à ce moment-là, on a plusieurs solutions. Donc c'est de prendre une mutuelle, donc une mutuelle santé. Bon, évidemment, il faut la payer. Et il faut faire attention que la mutuelle donc prenne en charge les troubles psychiques et se renseigne aussi sur, pour le forfait journalier, combien de temps la mutuelle rembourse le forfait journalier. Hein, parce que souvent, c'est limité au niveau du temps. Alors, juste à titre d'exemple, l'UNAFAM, par exemple, a un contrat groupe avec la mutuelle Intégrance. Mais le forfait journalier s'est pris en charge 60 jours par an uniquement. Voilà, donc il faut prospecter. Alors il faut surtout, enfin en général, prendre une mutuelle sans questionnaire médical, parce que les mutuelles choisissent leurs adhérents. Ça, c'est c'est pas discriminatoire. Enfin, dans le domaine des assurances, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les assureurs ont le droit de choisir les personnes qu'ils prennent. Donc déjà choisir une mutuelle où il n'y a pas de questionnaire médical. Alors, donc vous avez aussi sûrement entendu parler de la CMU, de la couverture maladie universelle C. Alors, quand on parle de la CMU, de la CMU. En fait, CMU tout seul, ça ne veut rien dire. Hein. Ou c'est la CMU de base, qui est le remboursement des soins maladie, ou c'est la CMU-C, qui veut dire CMU complémentaire. C'est la mutuelle, en fait. Hein. Alors, l'intérêt de la CMU complémentaire, c'est qu'effectivement, il y a un panier de prestations intéressant, puisque ça prend en charge le forfait journalier sans limitation de durée. Sauf que, dès le départ, ça a été fait pour que les gens qui sont aux minima sociaux, surtout ceux qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés ou d'une pension d'invalidité avec FSI, donc qui sont à 3 800 francs par mois et des poussières, ou les personnes qui sont les personnes âgées qui ont des petites retraites et le fonds spécial vieillesse. Donc, dès le départ, c'était voulu que ces personnes-là ne rentrent pas dans le dispositif CMU complémentaire. Donc, de toute façon, dès le départ, c'était clair que le plafond a été fait de telle façon pour qu'ils n'y rentrent pas. Alors, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont bénéficié de la CMU complémentaire, parce qu'avant la CMU complémentaire, il existait l'aide médicale. L'aide médicale, ça remboursait ce qui n'était pas pris en charge par la Sécurité sociale. L'aide médicale a été supprimée, remplacée par la CMU complémentaire, sauf qu'il y a des gens qui avaient l'aide médicale, mais qui n'ont pas pu avoir la CMU complémentaire. Donc il existait, par exemple, à Paris, la carte Paris Santé, qui remboursait, qui prenait en charge le forfait journalier. Donc c'est vrai qu'en 2000, tous les dossiers de la carte Paris Santé sont passés en CMU complémentaire. Donc il y a eu des gens qui ont eu la CMU complémentaire comme ça, de ce fait-là. Hein. Mais après, ça a été prolongé, etc. Mais enfin, en principe, au jour d'aujourd'hui, bon, les bénéficiaires de l'AAH, par exemple, n'ont pas la CMU complémentaire. Par contre, on verra ça un peu plus après, mais par exemple, les gens qui ont une allocation aux adultes handicapés réduite du fait d'une hospitalisation, au bout de plusieurs mois, ils peuvent avoir la CMU complémentaire parce qu'ils vont être en dessous du plafond. Voilà, donc ça, il faut aussi y penser, mettons, pour des gens qui seraient hospitalisés quelques mois. Alors, à l'époque, les associations se sont battues quand même contre ça, et l'UNAFAM en particulier, je peux en témoigner, mais bon, c'était une volonté politique, donc de toute façon, on n'y est pas arrivé. Alors, ils ont créé un autre dispositif qui s'appelle CCM, alors qui est la couverture. Alors, attendez, parce que. Couverture complémentaire maladie. La couverture complémentaire maladie. Alors, ça a été fait pour les gens qui ne dépassent pas de plus de 10% le plafond pour la CMU complémentaire. Vous voyez comme c'est simple. Donc, il ne faut pas dépasser de plus de 10% le plafond pour la CMU complémentaire. Donc on pensait que les titulaires de l'AAH, eh ben, ils pouvaient l'avoir, et eh bien non. Parce que comme il faut rajouter dans les ressources une ressource fictive qui est un forfait logement, ça fait que finalement on dépasse le plafond. Voilà. Alors là aussi, comme c'est les ressources de l'année qui sont prises en compte, bon, certaines personnes peuvent peut-être l'avoir parce que s'ils n'ont pas eu, mettons, l'AAH toute l'année, enfin... Bon, donc il faut quand même toujours se renseigner. L'organisme compétent, donc, c'est la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, et l'assistante sociale en particulier. Et puis, bon, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens dans la salle, donc il faut aussi penser que la mairie de Paris donc, peut donner un forfait pour payer une mutuelle, enfin pour aider à payer une mutuelle, mais il faut avoir l'allocation de la ville de Paris. Voilà, donc là il faut se renseigner auprès de la CCAS, enfin, ce qui est le Centre communal d'action sociale, qui est à la mairie en fait, d'arrondissement, ou dans les départements, dans les mairies. Voilà, donc au niveau des remboursements des soins, voilà à peu près. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à cette partie-là. Oui.
J'ai lu que pour bipolaire peut suivre un traitement avec deux psychiatres. Quels seraient les remboursements?
C'est-à-dire qu'une personne aurait plusieurs consultations.
Bah, avec des psychiatres différents et à long terme.
Oui.
Alors, ben, ça a été mon cas il y a quelques temps. Je suivais d'une part une psychothérapie avec un psychiatre analyste. Et à sa demande, j'ai été suivie pour les médicaments par un psychiatre. Et moi, j'ai demandé à ce moment-là la sécurité sociale qui était liée à la poste et tout. Ça a duré des années, ça n'a pas pensé à. Maintenant, j'ai arrêté ça il y a quelques années. Mais ça a bien duré.
Voilà. Donc, de toute façon, il faut demander, envoyer, et puis après, ça se discute auprès du médecin conseil de la sécurité sociale pour expliquer en quoi c'est nécessaire et utile d'avoir deux consultations avec deux psychiatres différents. Après, il faudra argumenter. Mais c'est vraiment, ça sera au niveau du médecin conseil de la CPAM. Oui. Ben, il n'y a pas de miracle, hein. Donc c'est vrai qu'il faut regarder. On peut, bien sûr. On peut avoir, ça s'appelle une surcomplémentaire, donc ça paye pas deux fois, hein, ça rembourse pas deux fois, mais ça complète effectivement si le remboursement n'est pas intégral. Non, mais bon, c'est un vrai problème. Bon, ben c'est vrai qu'il faut faire chacun en fonction. C'est vrai que les personnes qui vont être souvent hospitalisées, c'est vrai que c'est le forfait journalier qui va être prioritaire. Bon, après, bon, les dépassements d'honoraires, tout ça, bon, ouais, on peut peut-être aussi chercher des psys qui n'ont pas trop de dépassements d'honoraires. Mais bon. Après, bon, ça c'est. Oui, non, mais il n'y a pas de mutuel miracle. Alors, j'avais envie, mais je ne sais pas trop si ça vous intéresse, mais vous me direz, de vous expliquer un petit peu les différentes structures, types de structures qui existent un petit peu à chaque fois. Hein. Et si ça ne vous intéresse pas, vous me le direz, n'est-ce pas? Oui? D'accord. Alors, je ne sais pas si. Ça va rentrer, oui, si ça rentre. Bon, c'est un grosse louche, hein. J'ai fait ça à la fois. Moi, j'ai distingué, le docteur Gay, il est parti, là. Oui. Entre les soins curatifs et les soins de réadaptation. Et à chaque fois, j'ai vu si c'était en milieu institutionnel ou à domicile, hein. Donc les soins curatifs, donc en milieu institutionnel, on a donc les centres hospitaliers spécialisés, les hôpitaux psychiatriques, les services psychiatriques des hôpitaux généraux et les cliniques. Alors c'est vrai que les cliniques, là, il faut aussi faire attention parce qu'il y a les cliniques conventionnées, les cliniques agréées, et il faut prendre une clinique conventionnée Mais c'est vrai qu'il y aura toujours plus de frais. Faudra faire l'avance du un mois de forfait journalier. Voilà. Mais il faut surtout se renseigner avant et poser les questions. Combien ça coûte, hein. C'est pas honteux de demander combien ça coûte. Hein, savoir exactement ce qu'il faut payer. Alors à domicile, donc l'hospitalisation à domicile. Alors là, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en psychiatrie. On connaît ça plus pour n'importe quel soin, mais ça existe en psychiatrie, peut-être plus en pédopsychiatrie, mais bon, ça peut être, ça serait sûrement à développer. Donc ça serait, bon, on sort de l'hôpital, on est chez soi, mais on a du on a des personnes qui passent pour peut-être pour les médicaments, pour voir comment ça va. Bon. Enfin, ça existe, hein, c'est théoriquement possible. Et il y a peut-être en France 5-6 services, hein, d'hospitalisation à domicile en psychiatrie. Alors, le CMP, bon, ça c'est le centre médico-psychologique, hein, donc ça c'est la sectorisation, donc on habite tel endroit, on dépend de tel CMP. Hein, là, on n'a pas le choix précis. Et les centres d'accueil et de crise, bon, ben ça, ce sont des centres... ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où on peut aller si on a une crise d'angoisse, qu'on a besoin de parler à quelqu'un, et ils peuvent avoir des lits d'hospitalisation qui fait que ben, ça peut des fois éviter l'hospitalisation. Mais c'est vrai que là aussi, c'est beaucoup sectorisé, donc s'il n'y en a pas dans son secteur, c'est difficile d'aller dans un autre. Alors, au niveau des soins de réadaptation, donc c'est après, bon, c'est après le soin aigu. Bon, on est un peu, ça va mieux. Donc, avec hébergement, donc on a le système de l'hôpital de nuit. Donc ça, ça se fait, c'est-à-dire que on dort à l'hôpital et la journée, ben, des fois on peut reprendre un travail, on peut aller à l'hôpital le jour, on peut, bon, essayer de se réinsérer. Les centres de post-cure et les maisons de repos. Les centres de post-cure, voilà, ce sont des, bon, c'est après la crise, donc on peut y aller en convalescence. Donc soit après l'hospitalisation, ben, ça donne un petit temps de supplémentaire où on est pris en charge, on est, voilà, bon, ça dure un mois, deux mois. 3 mois, grand maximum. Ça peut être aussi de temps en temps dans l'année, si on est, bon, on a un petit, bon, on n'est pas bien, on, bon, c'est pas, enfin, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, mais bon, on peut aussi faire une demande pour aller dans un centre post-cure convalescence spécialisé. Donc la démarche là, s'il faut que le médecin traitant, bon, fait un dossier médical, l'envoie au médecin de l'établissement. Et puis, quand le médecin d'établissement est d'accord, on demande la prise en charge à la sécurité sociale. Et voilà, hein, c'est pas très, très compliqué, mais enfin, il ne faut pas rentrer avant d'avoir la prise en charge quand même. Hein. Les centres de psychothérapie, donc ça, il y a 2-3 centres de psychothérapie en France, avec... Bon, il y a Saint-Martin-de-Vignougoul, par exemple, qui est un centre de psychothérapie axé beaucoup sur la thérapie de groupe. Voilà, mais il y a très peu de centres en France, mais enfin, il y en a un certain nombre, donc il faut y aller, il faut être volontaire, évidemment, parce que la psychothérapie, ça ne peut pas se faire autrement. Ben non, à Paris, il n'y a pas de centre de psychothérapie. 3. Alors, foyer de post-cure. Alors ça, les foyers de post-cure, donc c'est des structures d'hébergement qui peuvent durer 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans. Donc le but, c'est de... Ben, c'est pour soit parce qu'on ne peut pas vivre seul, qu'on n'a pas d'hébergement, pour après apprendre à vivre seul, à s'organiser. Donc, il y en a sur Paris. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Bon, c'est des bonnes solutions. Ça peut être des bonnes solutions, effectivement, temporaires. Bon, les appartements thérapeutiques, bon, ça aussi, c'est une solution d'hébergement. Donc, ça dépend des secteurs. Donc, un appartement thérapeutique, c'est une structure. Bon, c'est un. Bon, en général, c'est des grands appartements. Chacun a sa chambre. Bon, on partage ensemble les repas, la cuisine. Et. Oui ? Six mois, un an, 18 mois. C'est quand même pour un temps limité. Enfin, un temps assez long quand même, qui peut permettre effectivement de pouvoir faire un projet et puis de voir ce qu'on peut trouver, si c'est trouver un logement. Oui. Et donc là, et la procédure, il faut qu'il y ait, bon, il faut en connaître évidemment, et c'est le médecin qui envoie un certificat médical au psychiatre du foyer. Après, la personne est convoquée, bon, on discute, on voit un petit peu si la structure peut aider, puis après, on attend une place. Parce qu'évidemment, bon, ces foyers, il n'y en a pas énormément. Bon, ça n'arrive pas qu'on téléphone et qu'il y ait une place. Mais enfin, on finit toujours par y entrer, parce que de toute façon, les gens, ils restent... ça tourne. Hein. Donc, bon, si... et puis, je crois que par rapport à un établissement, il faut que l'établissement sente que la personne est concernée, s'implique, a envie de... Vous voyez, donc, c'est important, quand on fait une demande quelque part, de temps en temps, téléphoner, de voir un petit peu où ça en est. Qu'ils sentent que vous êtes présent, là. Bon, il ne faut pas appeler toutes les 5 minutes, hein, mais de temps en temps. Alors, qu'est-ce que j'ai... Bon, appartement thérapeutique, d'accord. Donc ça dépend des secteurs psychiatriques. Bon, plasma familial thérapeutique, ça existe aussi. Donc, quand vous avez le mot thérapeutique, ça dépend toujours d'un hôpital, en fait. Hein. Et les familles d'accueil, donc ça se passe dans des familles d'accueil, et les familles d'accueil sont salariées de l'hôpital. Donc, ça peut être aussi des solutions d'hébergement... pour des temps limités, parce que tout ce qui est thérapeutique, c'est toujours limité dans le temps. 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, bon, le temps qu'il faut. Les centres de soins études, ce sont des structures qui existent pour les étudiants. Donc c'est la Fondation Santé des étudiants de France qui a des structures pour des problèmes médicaux divers. Hein, ça peut être des dialysés, des problèmes divers. Pour les troubles psy, il y en a 1, 2, 3, 4 en France. Et il y a une création dans le Nord. Voilà, donc là, c'est une poursuite d'études avec du soin, avec un environnement. Voilà. Et centres de réinsertion sociale et professionnelle. Donc ça, c'est aussi un type de structure intéressant. C'est-à-dire que le but... d'acquérir des compétences de travail, c'est-à-dire que on n'apprend pas un métier, hein, mais dans ces centres-là, on apprend à faut être à l'heure, il faut y aller, il ne faut pas fumer toutes les 3 secondes. C'est acquérir un certain nombre de compétences de travail. Et ça, c'est pareil, ça dure 1 an, 18 mois, et à la suite de quoi, soit on peut faire une formation professionnelle, soit travailler, soit pas. Bon, si le travail, pour l'instant, c'est trop... ça demande trop d'efforts. Voilà, et puis, sans hébergement, donc les hôpitaux de jour, dans les hôpitaux de jour, vous avez les hôpitaux de jour sectorisés et non sectorisés. Donc quand on dit sectorisé, ça veut dire qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire on habite tel endroit, c'est tel secteur, et vous avez tel hôpital de jour à telle adresse. Mais il y en a qui ne sont pas sectorisés, c'est-à-dire on peut y aller quel que soit l'endroit où on habite. Hein. Et il y a deux hôpitaux de jour très spécifiques, qui est par exemple Mogador, qui est un hôpital de jour qui a une visée de réinsertion de travail. C'est-à-dire qu'on travaille sur le travail. C'est-à-dire, je veux travailler, d'accord, mais ça veut dire quoi, comment, etc. Donc, ce n'est pas un hôpital de jour classique, dans le sens où les hôpitaux de jour classiques, c'est des activités des activités, enfin occupationnelles. Un hôpital de jour, ça permet de structurer une journée, de dire on se lève le matin, on y va, on y mange, on rencontre des gens. C'est une marche pour pouvoir faire autre chose après. Et Mogador, donc, c'est pour des gens qui veulent travailler. Mais pour l'instant, comment faire et puis essayer de voir, je veux travailler, ça veut dire quoi? Et il y a aussi, pour les plus jeunes, un centre qui s'appelle Espace Jeune Adulte, qui est pour les 18 à 23 ans, et qui aussi a un pôle thérapeutique, un pôle formation. Formation, c'est pas de la formation professionnelle, mais enfin, ça permet de travailler sur un projet scolaire ou professionnel. C'est à Bastille. Alors, j'ai pas l'adresse comme ça, mais c'est Faubourg Saint-Antoine.
C'est jusqu'à 25 ans.
Oui. Vous connaissez?
Moi, je connais.
Ouais.
Je suis à la SPAS, moi.
Voilà.
Centre de réadaptation et de CTR.
Oui, d'accord. La SPAS, c'est la Société Parisienne d'Aide à la Santé Mentale.
Oui, qui fait partie du centre Gador.
Voilà. Donc, merci. Donc, vous pouvez chercher sur Mitel Spaz, mais puis ils me donneront l'adresse.
Je voulais savoir, la psychothérapie de groupe, vous avez parlé de Saint-Martin, qui en avait besoin. Où peut-on se fournir les adresses en province?
Oui. Alors, il y a Saint-Martin de Vignogoul qui est dans l'Hérault, près de Montpellier. Il y a le pain à Mauges qui est près d'Angers. Le pain à Mauges, pain comme l'arbre. Pain à Mauges qui est près d'Angers, qui est pour des 18-25 ans, quelque chose comme ça. C'est un créneau jeune. Et puis il y a un autre centre dans les Pyrénées, je ne sais plus, l'Atlantique, je crois. Non, il n'y a pas beaucoup de centres. C'est vrai que la psychothérapie, même de groupe, il faut que c'est une indication médicale quand même. Enfin, c'est le médecin qui va juger si ça peut vraiment aider la personne aussi. Et puis, donc hôpitaux de jour, les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, donc ou CATTP, hein, donc ça. La différence avec un hôpital de jour, c'est que c'est pas tous les jours et qu'on choisit l'activité qu'on veut faire. Voilà, donc ça se fait avec le médecin du CATTP, pour voir, c'est des activités, ça peut être l'écriture, le théâtre, l'art plastique, des choses de la relaxation, voilà. C'est vrai que l'intérêt quand même de ces structures-là, c'est effectivement pas se retrouver seul chez soi, pouvoir déjà avoir une petite contrainte pour se lever, y aller. Mais c'est des marches. Hein. Le but, c'est pas qu'on y reste 36 ans, hein, mais c'est qu'à partir de là, on puisse faire autre chose. Donc même des fois, si c'est pas entièrement satisfaisant, qu'on dit pas terrible ce qu'on y fait. Ça a le mérite d'apporter une aide à un moment donné pour pouvoir accéder à autre chose. Mais il faut toujours en parler à son psychiatre, évidemment, parce que c'est lui qui fera la prescription pour la structure. Et les ateliers de réadaptation, un peu le cran au-dessus de l'hôpital de jour en termes de contraintes d'activités qui seront plus des activités de travail que des activités de remise en forme, de loisirs. Voilà, c'est à peu près les structures qui existent dans le domaine du soin. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au travail. puissiez pas me perdre dans les transparents. Alors. Alors c'est un peu chiffonné parce que ce matin, lui, la femme, on a un problème de photocopieuse. Donc il m'a pris la feuille entre ses dents et qu'il a... Voilà. Oui. On n'entend pas. D'accord, on va vous apporter un micro. Quand on cherche une structure d'accueil, est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou un organisme particulier à contacter, à joindre facilement, pour qu'il puisse être un interlocuteur facile?
Déjà, si la personne est suivie dans le secteur public à CMP, vous avez une assistante sociale dans tous les CMP. Bon, sinon, vous pouvez vous adresser donc aux assistantes sociales de la Sécurité sociale. Et puis, vous pouvez téléphoner à l'UNAFAM au service Écoute Famille, qui se fera un plaisir de vous renseigner. Voilà. Alors, au niveau du travail, il y a des notions un petit peu à distinguer qui sont... celle de l'aptitude au poste de travail. Alors, donc là, on prend le cas de figure où on a trouvé un travail. Donc, on travaille, bon, voilà. On a un problème de santé, donc on va se mettre en arrêt maladie. Donc ça, c'est important et c'est quelque chose, des fois, qui peut poser problème dans ces pathologies-là. C'est-à-dire qu'on a un travail, mais bon, on n'est pas bien, et bien, on abandonne son poste, on démissionne. Enfin, on peut effectivement faire ça quand on ne supporte plus. Alors, donc, on peut avoir des gens qui ne vont pas se mettre en arrêt de travail. Mais là, on essaiera toujours... De rattraper, si vous voulez, pour faire reconnaître que si la personne a fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle supportait plus, c'est justement qu'elle était malade. Alors, donc, on a un travail, donc on n'est pas bien, on se met en arrêt de travail, et on a des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Donc, les indemnités journalières, donc ça, c'est en gros 50% du salaire, et donc ça peut être accordé pendant 3 ans. Donc, alors je parle là du régime général de la Sécurité sociale. Et pour les fonctionnaires, donc ils relèvent d'un système particulier où la maladie peut durer 5 ans. Parce que chez les fonctionnaires, vous avez 3 types de congés maladie. Vous avez le congé de maladie simple, le congé de longue maladie, quand on a une maladie qui donne droit au remboursement à 100%, et le congé de longue durée qui comprend 5 maladies. Voilà. Donc, quand on travaille, enfin, quand on a un problème de santé et qu'on a travaillé, donc on est couvert, on bénéficie donc d'un substitut de salaire par des indemnités journalières. Alors il existe aussi le mi-temps thérapeutique qui est quand même un outil intéressant, c'est-à-dire qu'on va mieux, mais enfin on ne se sent pas trop capable de reprendre un travail à temps plein. Donc on travaille à mi-temps, on continue à percevoir les indemnités journalières. Et ça fait qu'on a un salaire à temps plein, à taux plein. C'est-à-dire, on a les indemnités journalières, 50% qui sont payées, et on travaille à mi-temps, et donc on est payé pour un mi-temps. Mais ça, c'est quand même du temporaire qui peut durer au maximum 1 an. Ouais. Ouais. Alors, on va... Oui, on va voir tout à fait la réponse à votre question là. Oui.
Qu'est-ce qui se passe si justement on cause une crise moment-là, on fait quasiment 10 jours après, on est licencié.
Alors, effectivement, ouais. Après,
suivant les. Avec les
ouais. Ben oui. Ben oui, parce qu'on a quitté son poste, on n'a pas prévenu, on n'a pas envoyé un arrêt de travail, c'est ça. Là, on n'a pas démissionné, on a quitté le poste. Hein.
Parce qu'on est malade.
Voilà, tout à fait. Ben, de toute façon, on essaiera toujours d'expliquer à l'employeur que, ben oui, mais sauf que si on a fait ça, c'est que justement, etc. Donc, dans certains cas, on peut. Effectivement, on peut revenir sur... sur ça, enfin, si l'employeur le veut bien. Sinon, à minima, eh ben, ça sera qu'on soit en maladie, qu'on se retrouve pas sans rien. Et ça, on pourra récupérer. Je veux dire, s'il y a un temps... Parce que c'est vrai que souvent, on a des temps... on travaille, donc on abandonne son poste, et des fois, ça peut durer des mois ou des années. Alors, on ne pourra pas récupérer 10 ans, mais enfin, on peut récupérer des mois et quelques années en arrière si on prouve que, justement, en fait, on était malade ou qu'il y a eu une hospitalisation. Enfin, il faut toujours essayer. De toute façon, au pire, c'est tout, on n'y arrive pas, hein, mais on n'a rien à perdre. Oui, mais ça, c'est effectivement... Alors, c'est vrai que des fois, je pense qu'on a plus de facilité à négocier dans le privé que dans le public. Moi, j'ai un souvenir d'une situation qui m'est toujours restée en travers de la gorge. C'était un garçon qui était infirmier, psychiatrique en plus, et puis un jour, il n'est plus allé travailler. Donc, il s'enfermait chez lui. Donc, l'employeur, il a écrit, il a envoyé des lettres recommandées qu'il n'a jamais été chercher, le huissier, il n'a pas ouvert sa porte, etc., etc. Et au bout d'un moment, donc, il a été radié de la fonction publique. Mais l'employeur, il avait fait tout ce qu'il fallait, toutes les lettres, les huissiers, etc. Et au bout d'un moment, la mère est arrivée, a réussi à le faire hospitaliser, etc. Donc là, il était radié. Alors, la fonction publique, elle ne le connaissait plus, puisqu'il était radié. Et la sécurité sociale, elle ne le connaissait pas non plus, puisqu'il relevait de la fonction publique. Et là, on est arrivé à rien. Autant, c'est vrai qu'avec la sécurité sociale, on arrive à s'arranger, moi je trouve, mais avec les administrations, alors on croit qu'on est tranquille dans les administrations, tant qu'on est sur les rails, c'est bien. Mais dès qu'on déraille, on peut plus c'est très très fermé, très très rigide. Donc c'est vrai que là avec pour les fonctionnaires, il faut quand même faire attention, effectivement. Ben, ça va très vite, hein. Ça dépend. Comment ? Oui. Ben, c'est une histoire de temps entre le public et le privé. Hein, c'est ça. Alors, si on est effectivement dans une situation où on ne peut pas travailler pour une question de santé, c'est vrai qu'il faut être en arrêt de travail et avoir des indemnités journalières. Donc, quand ça va mieux, donc on essaie de reprendre un mi-temps thérapeutique. Bon. Pour répondre à la question de la jeune femme tout à l'heure, là, il y a la notion d'inaptitude au poste de travail. Alors, cette inaptitude, donc là, on est dans le droit du travail, et c'est le médecin du travail qui dira si on est apte ou pas. Alors, qui dira si on est apte ou pas, partiellement, totalement, temporairement ou définitivement. Mais le reclassement par l'employeur est obligatoire. C'est-à-dire que l'employeur doit toujours chercher à proposer une solution de reclassement qui pourra être soit une adaptation du poste, qui pourra être une affectation différente, un autre service ou peut-être moins stressant, une mutation dans certains cas,
ou un aménagement du temps de travail ou toute autre chose. Hein. Voilà, donc on va chercher une solution de reclassement. Si ce reclassement est impossible, soit parce que l'employeur ne trouve pas un poste qui pourrait être adapté, etc., ou que le salarié refuse, on peut être licencié. Effectivement, on peut être licencié. Mais à ce moment-là, on restera quand même dans les cadres administratifs, on aura des ACEDIC, parce que si on démissionne de son poste, on n'a pas d'ACEDIC. Mais effectivement, c'est tout à fait possible d'être licencié quand en étant maladie. Alors peut-être pas, je ne sais pas qui c'est qui avait posé la question, la jeune femme, la jeune fille. Je ne sais pas votre exemple au bout de combien de temps c'était, mais enfin pas moins 6 mois. Oui, enfin il faut quand même plusieurs mois de. Alors, au niveau, donc, ça concernait donc l'inaptitude au poste, inaptitude ou inaptitude au poste de travail. Et alors, si, mettons, on a épuisé les droits aux indemnités journalières, le mi-temps thérapeutique, bon, on l'a fait, on l'a pas, mais bon, ça marche pas, on peut pas reprendre un travail à temps plein. À ce moment-là, y a le système de l'invalidité, qui est donc quand même un filet de sécurité, hein, qui...
Oui, d'accord. Vous avez raison.
Encore.
Donc, pension d'invalidité, donc c'est le médecin conseil de la sécurité sociale et ça s'étudie en termes de réduction de capacité de travail. Et pour avoir une pension d'invalidité, il faut avoir une réduction de capacité de travail de 66%. Voilà, c'est en termes de réduction de capacité de travail. Et à partir de là, on est classé en première, deuxième ou troisième catégorie. Donc, première catégorie, c'est 30% du salaire de base des 10 meilleures années. Si on n'en a pas 10, c'est bon calcul avec ce qu'on a. Deuxième catégorie, c'est 50% du salaire de base des 10 meilleures années. Et troisième catégorie, ça c'est pour quand on est dépendant, on a une majoration de 15 personnes en plus. Et de toute façon, la pension d'invalidité, donc il y a à la fois des conditions médicales qui sont cette réduction de capacité de travail. Il y a des conditions administratives, c'est-à-dire qu'il faut avoir été immatriculé à la sécurité sociale 1 an, avoir travaillé 800 heures de travail. Donc ça veut dire que les conditions administratives sont petites. Donc on pourra très vite avoir droit à une pension d'invalidité. Et au minimum, la pension d'invalidité, je ne sais plus par cœur, c'est 241,52 € par mois. On ne peut pas avoir moins que ça. Et donc après, il y a un complément qui met donc à 587 € par mois. Mais moi, c'est le montant de l'AH en fait. Hein. Alors c'est vrai que la pension d'invalidité, c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser enfermer par les mots. Hein. Bon, invalidité, bon, pas terrible. Hein. Bon, mais c'est un filet de sécurité. Ça veut dire que bon, on a travaillé, on a cotisé, on a un problème de santé, ben bon. Et on a quand même un filet de sécurité qui n'hypothèque pas l'avenir d'une façon définitive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce qu'on a une pension d'invalidité qu'on ne pourra jamais retravailler. Si on trouve un travail, on le prendra. Mais ça fait qu'au moins, si on ne peut pas, on a pas rien et on a une couverture maladie avec, des revenus minimums. Et ça donne des trimestres de cotisation pour la retraite, parce qu'on parle beaucoup de la retraite, là, bon, voilà, ça permet... tout ça, ça bouge, hein. On peut passer de première en deuxième, de deuxième en première, mais donc ça dépend du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, Légalement, non. Pratiquement, oui. Donc, ce que la personne veut dire, là, c'est vrai que la pension d'invalidité, comme souvent, elle va être petite, enfin, si on n'a pas travaillé beaucoup d'années, donc elle va être à 241,52 €. Alors, prioritairement, la pension d'invalidité est complétée par le fonds spécial d'invalidité, qui vous met à 587 € par mois, donc au minimum. Mais bon, il y a des caisses d'allocation familiale qui versent une allocation aux adultes handicapés différentiels à des gens qui ont une pension d'invalidité. Donc, si la caisse paye, bon, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, du moment que vous avez dit qu'il y avait une pension d'invalidité, mais si la CAF vous dit non, demandez le FSI en priorité, on ne peut rien faire parce que la loi, elle est comme ça. Donc, tant qu'on en bénéficie, eh ben, t'as mieux, on va dire. Enfin, bon, la loi, c'est que la pension d'invalidité est prioritairement complétée par le FSI, le Fonds spécial d'invalidité.
Je ne suis pas claire.
Allez-y. Voilà, le FSI, c'est pas la CAF, c'est l'organisme qui verse la pension d'invalidité. Le FSI, ça se demande à l'organisme qui verse la pension d'invalidité, qui est la Caisse régionale d'assurance maladie.
Moi, je voulais juste apporter un témoignage.
Oui. Vous avez raison, absolument. Donc effectivement, la pension d'invalidité donc, peut se cumuler avec un salaire jusqu'au salaire antérieur. C'est-à-dire, si on est en deuxième catégorie, qui est 50% du salaire, on peut cumuler avec un mi-temps. Donc ça vous fait un salaire total. Simplement, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, le médecin conseil de la Sécu peut dire « Bon, ben, cette personne, elle travaille » et mettre en première catégorie. Mais ça permet des fois d'avoir quand même une bonne solution, même en première catégorie. C'est-à-dire, on a une première catégorie, c'est 30% du salaire. On travaille à mi-temps, donc on travaille à mi-temps et on a 80% du salaire. Donc c'est vrai que ça peut être des bonnes solutions quand même. Voilà. Et donc, pas se faire enfermer par le moins validité, c'est tout. Hein. Bon. Et la pension d'invalidité, elle peut durer jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans, qui est l'âge de la retraite. Ah non, enfin, c'est 60... Non, c'est 60 ans... Enfin, oui. Enfin, pour inaptitude au travail, on peut être à la retraite à 60 ans. Voilà. Donc, c'est quand même un outil qui n'enferme pas. Oui. Alors, bon, c'est vrai que le public... alors, ça s'appellera pas pension d'invalidité. Ça s'appelle quoi comment ça s'appelle? Qui c'est qui m'aide? Pension... C'est une retraite pour inaptitude. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein.
Un état juridique et on touche une pension qui vous est versée par votre employeur payeur du domicile qui était le vôtre.
On touche une pension qui est versée par le trésorier payeur du domicile où vous étiez quand l'invalidité a été prononcée. Et on est assimilé à un retraité de la fonction publique, point.
D'accord.
à ma connaissance. Je parle des fonctionnaires, là.
Hein.
J'ai pas entendu la question. Le nom de quoi? C'est une pension de retraite?
La réforme, la réduction dont on ne peut pas. Il y a des commissions de réforme.
Oui, oui, mais enfin, là, bon, moi je vais. Oui. On ne va pas rentrer dans tout le détail des différents services, simplement que le principe, il existe. Pas exactement comme je vous ai décrit là, mais effectivement, heureusement qu'on peut bénéficier, bon, pour des gens qui ne peuvent plus travailler, d'un substitut de salaire. Parce qu'une pension d'invalidité, c'est ça, c'est un substitut de salaire. Donc là, il faut vous adresser aux assistantes sociales du service du personnel, qui seront très au fait des différentes fonctions publiques, parce qu'en plus, il y a différentes fonctions publiques. Hein. Mais il y a forcément un système de protection. Voilà, alors, voilà, donc on a abouti là. Alors, l'obligation d'emploi. Quand on est l'obligation d'emploi ou la loi de 87, donc ça concerne, vous savez qu'il y a une obligation d'emploi pour les entreprises, enfin aussi bien dans le privé et dans le public, d'embaucher un certain nombre de personnes. Alors la liste des personnes, je vais vous la donner, mais je ne l'ai pas comme ça. Voilà, donc l'obligation d'emploi donc, concerne à la fois le public et le privé qui doit embaucher au-delà de 20 salariés 6% de l'effectif. Bon. Et pour bénéficier donc de cette obligation d'emploi, donc vous avez les titulaires d'une pension d'invalidité qui font partie des bénéficiaires, les accidentés du travail, les personnes atteintes de maladies professionnelles, les veuves de guerre non remariées et les titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est donnée par la COTOREP. Donc, toutes ces qualités différentes là peuvent faire que on pourra peut-être être embauché par un employeur qui veut se mettre en règle avec la loi, puisque l'obligation d'emploi. Soit l'employeur a le choix, soit il embauche, soit il fait ce qu'on appelle un accord de branche, enfin un accord pour la réinsertion de ses propres travailleurs handicapés, etc. Soit il verse donc une somme d'argent à la GFIP, qui est donc un organisme collecteur des employeurs qui préfèrent payer qu'embaucher, à charge pour la GFIP de le redistribuer pour l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. Alors, à ce moment-là, pour les personnes qui veulent bénéficier de l'obligation d'emploi, là, soit on est dans le cadre de la pension d'invalidité, ou on a une reconnaissance travailleur handicapé par la COTOREP. Et pour pouvoir trouver un travail, on pourra être aidé par différents organismes spécifiques, qui est donc le PDITH, qui est donc les programmes départementaux d'insertion des travailleurs handicapés. Il y a les CAP emploi, qui sont les anciens OIP ou EPSR. L'ANPE. Hein, où il y a des prospecteurs spécialisés, prospecteurs placiers spécialisés. Bon, je vous ai mis le club Harry, mais la sauteresse. Enfin, c'est vrai que dans le domaine, je vais vous expliquer mieux, dans le domaine du travail, soit effectivement, bon, on tente sa chance comme n'importe qui, bon, voilà, NPE, etc. Ou alors, on peut bénéficier d'aides spécifiques pour trouver un travail. Et à ce moment-là, donc, il faut soit avoir une pension d'invalidité, soit avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Cotorep. Et à ce moment-là, on peut donc bénéficier de ces aides spécifiques qu'on n'aura pas si on ne rentre pas dans ce dispositif-là. Alors c'est pareil, bon là on a toujours les grandes questions, est-ce qu'on demande la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé ou pas? Bon, parce qu'il y a le mot handicap, bon là c'est pareil, il ne faut pas se faire enfermer par le mot, bon ça veut dire une restriction dans la vie sociale et professionnelle, hein, ça veut dire qu'on va avoir plus de mal à trouver, bon en termes de concentration, mémorisation, etc. Donc ça peut être... Alors ce qu'il faut surtout savoir par rapport à la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, c'est que c'est vraiment la personne qui décide si elle en parle ou non. On n'est pas obligé, parce qu'on a la reconnaissance de travail handicapé, de le dire à son employeur. On le dit si on veut et si on pense que c'est utile. Ça c'est très important parce que souvent on pense que, bon ben, si on a... cette reconnaissance-là, c'est comme si c'était, on était marqué du sceau. Enfin bon, ça atteste d'une qualité. Déjà, c'est la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Ça atteste d'une capacité de travail et ça permet de bénéficier de dispositifs spécifiques. Et si on ne veut pas le dire, on ne le dit pas. C'est vraiment un joker qu'on a. Et ça, c'est vraiment, il n'y a pas très longtemps, une décision de justice qui était qu'une personne qui travaillait au service du personnel avait la reconnaissance de travail handicapé, elle ne l'avait pas dit. Et son employeur l'a découvert, je ne sais pas comment, et l'a licencié. Eh bien, l'employeur a eu tort, donc ça a été reconnu par le tribunal, ce n'est pas une faute si on a la reconnaissance de travail handicapé et qu'on n'en parle pas à l'employeur. Voilà, donc c'est vraiment un joker. Hein.
Oui, enfin, je ne sais pas la fin de l'histoire, si elle a été réintégrée ou pas. Enfin, l'employeur a été jugé fautif.
Si ça procure un avantage.
Oui, la personne l'a dit si ça donne un avantage.